Je vous remercie de m'accueillir et avant de vous parler de ce livre, j'aimerais bien me présenter un tout petit peu. Je suis née en 1942 à Bourganeuf. J'ai toujours entendu parler de cette rafle par ma mère, mais je crois qu'elle-même n'en avait peut-être pas mesuré l'importance. En tout cas, c'est un sujet qui était souvent évoqué chez nous. D'une manière générale, on parlait beaucoup de la guerre, de ses conséquences. Nous étions d'autant plus sensibles à ce sujet particulier des Juifs que moi-même, j'étais entourée de pas mal d'enfants juifs, notamment dans la maison familiale, avec deux enfants qui habitaient avec leur mère dans la même maison, d'autres qui habitaient tout près. Bon, enfin, c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup touché, voire même peut-être perturbé quelquefois. Alors, cette rafle, j'avais pas vraiment l'intention de travailler là-dessus. Je dirais qu'elle est plus venue à moi que moi à elle. En 2016, j'ai participé à l'instruction d'un dossier pour Yad Vashem, pour une directrice de collège de Bourganeuf qui a protégé une dizaine de jeunes filles juives qu'elle accueillait dans son établissement sous des faux noms, qui au moment où la ville a été dans une situation extrêmement difficile, a exfiltré, comme on dit aujourd'hui, ses enfants en les plaçant dans des familles à la campagne. Et alors, en faisant ce travail, c'est comme ça que j'ai eu les deux premiers noms de deux déportés, une petite fille de 14 ans et une autre jeune fille, presque encore une petite fille de 16 ans. C'étaient les deux premiers noms. Il me restait à comprendre et à approfondir ce travail. Et j'ai été mise en relation avec une famille de Metz, la famille Cahen. Et là, eh bien, je me suis aperçue que cette rafle était beaucoup plus importante que je ne l'avais cru. Mais bon, je vais revenir sur tout ça, si vous voulez. Tout d'abord, je voudrais quand même vous parler un tout petit peu de la Creuse, parce que Bourganeuf, sur la couverture du livre, Bourganeuf, c'est où? La Creuse, c'est où? Même si, effectivement, depuis le confinement, eh bien, ce département est devenu à la mode. Vous prenez la carte de France, c'est à peu près au milieu, même que c'est presque le nombril, voilà, hein, à peu près. Mais il y a un lien entre ce département et vous, et la Bibliothèque des Amis de l'Instruction, un lien plus ancien dont j'ai connaissance depuis peu de temps d'ailleurs, qui est Martin Nadaud. C'était notre député, auteur des Mémoires de Léonard. Bon, et qui a été membre et administrateur des Amis de l'Instruction du 14e, si je me souviens bien. Et puis un autre lien, et qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est Pauline Weller. C'est, je crois, Louise qui va pouvoir vous parler un peu plus de Pauline.
Oui, donc Pauline Weller, elle est devenue lectrice dans cette bibliothèque des Amis de l'Instruction en 1906 et elle va y rester au moins jusqu'en 1933, d'abord lectrice et ensuite secrétaire et ensuite présidente et il n'est pas impossible qu'elle soit restée même jusqu'en 1941. Je ne vais pas parler beaucoup de Pauline Weller, mais puisque vous écoutez cette conférence et que vous avez été capable d'accéder au site de la BAI, vous pouvez trouver en allant sur le carnet de recherche en bas à droite de la page d'accueil deux articles d'Agnès Sandras, un de 2015, un de 2017. Et si vous allez sur la Gazette du 54, vous trouvez un article de Michel Blanc dans le numéro 3. Alors, comment est-ce que Pauline Weller est arrivée à la bibliothèque? Eh bien, en 1906, elle est étudiante pour devenir institutrice. Elle habite juste à côté avec ses frères. Ensuite, elle va rester célibataire. Elle va faire des voyages. Elle va faire de l'alpinisme. Et elle va s'occuper de cette bibliothèque. Comment est-ce que sa famille est arrivée là? C'est déjà des histoires compliquées. Son père arrive de Suisse, il est né à Berne. Sa mère et ses trois frères ont été optants français, déjà des complications. Ils étaient alsaciens, habitaient Colmar et obligés de partir pour rester français. Et ils s'installent dans le 10e, limite 3e. Ensuite, à 16 ans, on retrouve Pauline à l'école Sophie Germain, 4e, limite 3e, rue de Jouy. Et ensuite, elle s'installe rue Barbet. C'est une famille qui n'est pas très pratiquante de la religion juive. La seule allusion qu'on retrouve en cherchant bien, c'est que le décès de la mère en 1916 est signalé dans l'univers israélite. Et sinon, par exemple, Dina, l'aînée qui épouse un catholique, arrive à échapper à tout ennui en habitant à Nice. Paul, lui, a l'air très étonné de devenir le juif Vélaire et d'être confronté à l'arianisation. Il habite à Reims et il brandit sa légion d'honneur qu'il a obtenue après la guerre de 14-18 où il a notamment été à Verdun. Et maintenant, je redonne la main à Marie-Françoise pour parler de Blanche et de Pauline.
Voilà, et alors je vous en parlerai un peu plus loin dans cet entretien parce que je voudrais quand même préciser un petit peu ce titre, Une rafle, Bourguenneuf, 21 juillet 1944, une rafle inattendue qui va déporter 20 personnes. Et là, encore une fois, on a un lien avec les sujets qui vous intéressent. C'est que vous avez fait récemment une conférence avec Anne Sinclair qui parle d'un tout premier convoi. Et là, avec cette rafle de juillet 44, eh bien nous allons parler du dernier, enfin probablement le dernier convoi. En tout cas, il porte le numéro 82 et Serge Karsfeld, dans ses travaux, l'indique bien comme le dernier. Alors, dans la première partie du livre, j'évoque un petit peu les raisons de la présence juive à Bourguenneuf, pourquoi ce département. C'est assez simple finalement, c'est un département rural qui à l'époque était déjà pas tellement peuplé. On peut s'y nourrir de manière à peu près convenable, mais il y a aussi des raisons qui concernent les juifs originaires d'Alsace-Lorraine, parce que dans un premier temps, ils sont évacués, comme tous les habitants des régions frontalières. Et dans un deuxième temps, ils seront jugés indésirables. Mais le gouvernement, qui à l'époque n'était pas encore le gouvernement de Vichy, s'était mis en contact avec divers départements pour connaître leurs possibilités d'accueil. Et dans tous ces départements, il y avait tout le Limousin, et la Dordogne, et puis d'autres encore. Donc ça explique l'arrivée, dès 1940, des Alsaciens lorrains, et puis d'autres aussi de Paris. Alors cela, pourquoi arrive-t-il dans la Creuse? Eh bien, il y a donc la famille Franck, c'est-à-dire la sœur et le beau-frère de Pauline Vélaire, qui eux ont des connaissances à Bourguenneuf, on leur prête un appartement. Parce que tous ces gens-là, bien sûr, arrivent pendant ou juste après l'Exode. Il faut donc se mettre en rapport avec la municipalité. On leur trouve des logements. Enfin, le contexte est quand même bien difficile pour tout le monde. D'une manière générale, la Creuse a accueilli beaucoup de Juifs. Pour les raisons que je viens de dire, pour le fait aussi que finalement, on n'était pas très très loin de la ligne de démarcation. Ça fait partie des raisons supplémentaires. Et puis, nous avions trois maisons de Lozé. Lozé, c'est l'œuvre de secours aux enfants, des internats, des sortes de colonies. On n'ira pas vacances, parce que ce n'est pas vraiment des vacances, où les enfants sont accueillis et protéger autant que possible. Alors, une petite parenthèse, Serge Klarsfeld, lui, était dans la Creuse Il garde quand même un bon souvenir de la Creuse parce qu'un chirurgien lui a sauvé la vie, il venait de faire une péritonite. Enfin bon, voilà, c'est une petite parenthèse. Alors, ces gens-là arrivent, s'installent comme ils veulent, mais sont apparemment très bien intégrés. On trouve bien quelques lettres de dénonciation, on trouve bien quelques petites choses, mais je ne dirais pas plus qu'ailleurs parce qu'on n'est pas plus méchant ici qu'ailleurs. Première contrainte pour ces juifs, celle de s'inscrire à la gendarmerie. Et à partir de ce moment, un tampon portant le mot juif en rouge, en lettres bien, bien, bien visibles, est apposé sur leur carte d'identité, leur carte d'alimentation. Et cette liste, eh bien, elle a été ma base de travail parce que on a là tous les noms, il comporte à peu près 130 noms. À mon avis, il y avait plus de juifs que ça à Bourg-en-Neuve parce que certains ne se seront pas déclarés ou ont vécu sous un faux nom. Mais voilà, cette liste est là, prête à servir. Le 21 juillet, c'était pas compliqué. Le gendarme avait une liste à la main et puis les agents de la Gestapo ou de la milice les accompagnaient et voilà, on arrêtait les gens à leur domicile. Donc ça a été la base pour moi, pour mes recherches. Je ne vous cacherai pas que j'ai dû aller les chercher un par un. J'ai rentré tous les noms sur tous les sites possibles et imaginables. J'étais bien sûr en contact avec le mémorial de la Shoah, avec Yad Vashem, mais je ne trouvais que quelques noms. Et puis, plus tard, dans mes recherches, j'ai eu la chance de tomber sur une archive. Vous savez, les archives, c'est comme ça, on cherche, quelquefois on ne sait même plus ce qu'on cherche, et puis au bout d'un moment, quelquefois, on trouve. Et là, j'ai trouvé un cahier de la Gestapo avec tous les noms des hommes enfermés dans une prison de Clermont-Ferrand. Alors, j'y reviendrai aussi quand on parlera du convoi. Là, j'avais des preuves vraiment écrites. Malheureusement, ce même livre d'écrou n'existe pas, à ma connaissance, pour les femmes et les enfants qui pourraient éventuellement les accompagner. Mais ça a été une étape très importante dans mes recherches. Alors, qu'est-ce qui se passe à Bourg-en-Neuve en ce mois de juillet 44? Le Limousin est une terre de résistance. Vous connaissez tous les exactions de la Das Reich, notamment à Oradour, mais ils sont quand même passés aussi à Bourg-en-Neuve. Le drame a été évité de justesse. Plutôt, ça se passe au mois de mai. au mois de juin 44, mais très clairement, les troupes allemandes se rendent vers le Limousin pour éliminer le maquis. Et à partir de la mi-juillet 44, la brigade Jesser arrive, commet les pires exactions, les maquis sont attaqués, il y a de nombreuses personnes qui sont fusillées, y compris des civils, et puis les maquisards sont arrêtés, enfermés, connaîtront la déportation eux aussi. Et tous ces gens, les maquisards dans un premier temps, les juifs ensuite, sont enfermés dans une tour. Nous avons à Bourg-en-Neuve les restes d'un château du XVe siècle, il reste deux tours, très imposantes, très austères aussi. Et lorsque la rafle se produit, on rassemble tous ces gens dans la tour Zizi. Alors là, il y a donc plusieurs familles, une famille de 6 personnes, une autre de 5, une autre de 3. Il y a une jeune femme, il y a cette jeune fille de 16 ans que j'ai déjà évoquée, Hélène, et il y a un autre enfant, ça je l'ai découvert en regardant le cahier de la Gestapo, Paul Rosenbaum, qui a 13 ans. Et moi, quand j'ai vu son nom sur ce cahier, pour moi, il était mort. Ce n'était pas possible. À son âge, il aurait été forcément gazé à l'arrivée, comme l'a été Yvette. C'est la petite fille qu'on voit sur la couverture du livre. Yvette, 14 ans, gazée à l'arrivée avec sa grand-mère. Donc, ces gens sont enfermés dans cette tour. Il ne reste que 24 heures à peu près, conduits dans un autre lieu à Aubusson, toujours dans la Creuse. Et puis ensuite, on les enferme à Clermont-Ferrand, dans une prison militaire. C'était la caserne du 92e régiment d'infanterie de Clermont-Ferrand. Mais elle était devenue prison militaire pour les Allemands. Alors, on y enfermait des soldats qui s'étaient mal conduits et puis des Juifs, des résistants. Et c'était un lieu épouvantable. On y a pratiqué des tortures terribles. Toutes ces personnes arrivent. Les hommes sont séparés des femmes. Ils sont soumis à un régime que vous imaginez, le manque de nourriture déjà. Bon, enfin, une vie qui est très dure pour eux, mais ils y restent quand même 3 semaines à peu près. Et dans cette prison, on apprendra plus tard qu'une de nos déportées de Bourganeuf, une des femmes, qui a fait une crise de nerfs, a probablement été exécutée tout simplement par des soldats allemands. On saura plus tard qu'elle a été emmenée par 2 soldats parce qu'ils n'arrivaient pas à la calmer. Donc voilà, on lui a fait une piqûre et puis comme ça ne suffisait pas, on en fait une deuxième. Et puis elle est au nombre des victimes évidemment, mais elle ne fait pas partie de ces gens qui ont constitué le convoi 82. Prison de Clermont-Ferrand, il y a quand même dans ce livre une anecdote tout à fait étonnante, parce qu'il faut bien penser qu'à cette époque, à ce moment de la guerre où on savait tous que l'Allemagne l'avait perdue, certains soldats pouvaient quand même se comporter de façon un peu plus humaine, en prenant parfois des chemins étonnants. Ça a été le cas pour ce petit Paul Rosenbaum qui ne voulait pas manger, voilà, ne voulait pas manger sa soupe, jusqu'au moment où un soldat allemand, un gardien, est venu et lui a mis son revolver sur le front. Et il lui a dit, tu manges, ou alors voilà. On est dans l'absurdité, dans l'absurdie la plus totale, avec des choses qu'on ne peut pas imaginer. Alors le 18 août, tous nos détenus sont chargés dans un train. Et là, c'est quand même une épopée qui commence. C'est tout à fait incroyable ce transport. Il est inattendu, il ne correspond absolument pas aux images que nous avons tous pour avoir vu des documentaires ou même les fictions. Ce qu'on voit, Serge Persfeld dit lui-même que c'est le plus mal connu de tous les convois de France. Alors, il est très particulier parce que c'est un train normal de voyageurs qui est constitué en majeure partie de troupes regagnant l'Allemagne, et puis en queue de train, certains témoins parlent de 3 wagons, en queue de train, eh ben, on a fait monter les Juifs, les maquisards, les résistants, des personnes qui étaient dans des prisons pour des délits, parce qu'il y avait aussi des gens qui faisaient du marché noir. Enfin, voilà, tout ce monde est regroupé en queue de train, destination pour eux inconnue. Ce train s'arrête dans différentes villes, on charge d'autres passagers, et d'ailleurs, il y aura beaucoup d'évasions. pendant ce trajet parce que le train s'arrête. Il y a évidemment des soldats et des miliciens pour surveiller les détenus, mais c'est pas quantifiable malheureusement. Quand même, apparemment, un certain nombre de prisonniers ont réussi à s'échapper. Et c'est le cas notamment pour la nièce de Pauline Weller, pour Madeleine Franck, qui, un petit peu avant Chalon-sur-Saône, trouve l'opportunité. Elle descend tout simplement au cours d'un arrêt, elle descend du train, se cache et s'échappe. Elle arrive à rejoindre la résistance, il lui arrivera d'ailleurs bien des mésaventures, mais elle se cache avec l'accord de ses parents, semble-t-il, qu'il avait engagé, encouragé à se sauver si elle le pouvait. Et on imagine le déchirement, le cas de conscience que ça peut représenter pour ceux qui ont l'opportunité de s'échapper, mais de laisser les autres membres de la famille dans le train. Il faut bien se mettre en mémoire ce qui se passait en France à ce moment-là. Le pays se libère, la résistance s'active, on fait sauter les rails de chemin de fer, on essaie de faire sauter la locomotive de ce fameux train, malheureusement sans succès. Mais le conducteur de la locomotive, qui sait que des prisonniers sont dans les wagons de queue, favorise leur évasion en ralentissant le train quand il faut passer des tunnels. Et puis, arrivé à Chalon-sur-Saône, alors là, terminé, les voies de chemin de fer sont impraticables. On fait donc descendre tout le monde du train. Et c'est encore une fois l'occasion pour certains de s'échapper. Cette petite Hélène Grimstein, dont je vous ai déjà parlé, qui avait 16 ans, essaie de s'échapper, mais elle est rattrapée par un milicien qui la ramène avec les autres. En revanche, Nachman Rosenbaum, lui, s'échappe parce que son fils, Paul, a été malade. Alors, une femme, médecin militaire allemande, l'examine et décide de le faire évacuer sur l'hôpital de Chalon. Est-ce que c'est un geste d'humanité? Est-ce que... On ne peut pas savoir. En tout cas, cet enfant descend du train et conduit à l'hôpital et son père demande l'autorisation de lui dire au revoir. On le lui accorde, il en profite pour s'échapper. Voilà donc les trois rescapés du transport. Madeleine Franck, Nachman, Rosenbaum et son fils. Les autres poursuivent le chemin. Et ce qui est terrible, c'est que au fur et à mesure qu'ils avancent dans ce pays en train de se libérer, ils apprennent que les villes qu'ils ont quittées la veille se sont libérées. Ils restent à la prison de Dijon pendant quelques jours. Alors, j'ai oublié de dire qu'ils sont transportés de Chalon à Dijon par camion. D'ailleurs, le reste du trajet jusqu'en Allemagne, jusqu'à Neuobrem, se fera par camion. J'ai quelques témoignages. Je ne vous ai pas précisé que Hélène Grimstein, qui donc est rescapée de la déportation, a laissé des mémoires. Et puis, les témoignages pour la première partie du trajet m'ont été donnés par Paul Rosenbaum, que j'ai retrouvé en 2018 et qui avait donc 13 ans à l'époque et qui vient de décéder à 89 ans. Voilà aussi pourquoi on a quelques informations sur ce transport. Alors ensuite, ils arrivent à Neuobrem, qui est un endroit terrible. Je crois que c'est un camp qui est tenu par la Gestapo et que c'est un camp d'initiation à l'univers concentrationnel. Là, ils connaissent les convois classiques, si j'ose dire, dans des wagons à bestiaux, dans des conditions épouvantables, comme on le sait. Là, pour le coup, le 4 septembre, ils arrivent à Auschwitz. À Auschwitz, tout de suite, à l'arrivée, Yvette et sa grand-mère sont gazées, sa mère, sa tante, enfin toutes les personnes qui sont là, les voient partir dans des camions, ne savent évidemment pas ce qui les attend. Un peu plus tard, c'est le tour de Rosette Zellickson et de Jeanne Lévy, la mère et la tante d'Yvette Zellickson, qui seront sélectionnées du mauvais côté. Et puis, les autres, eh bien, pour les hommes, on n'a pas d'informations, puisque tous les témoignages sont féminins. Donc, deux de ces femmes seront dirigées sur Bergen-Belsen, ce qui est relativement une chance pour elles, parce qu'il n'y a pas de chambre à gaz là-bas. La vie n'y est pas plus facile pour autant. Mais elles passent par Bergen-Belsen et en février 1945, elles sont transférées à Ragun. Alors, Ragun, c'est un camp dans lequel les femmes sont appelées à travailler, pour certaines dans une usine d'armement. Pour l'autre, qui est petite, hein, Hélène Greenstein est d'une taille trop petite, elle ne peut pas atteindre les machines. Elle est chargée donc de transporter des pierres. Dans un premier temps, ça se passe plutôt, si j'ose dire, bien pour elles, parce qu'elles sont accueillies, elles ont un chalet, un par personne, elles ont une nourriture nettement meilleure, enfin, elles n'y croient pas, quoi. Et puis très vite, eh bien, les mauvais traitements reprennent. Elles sont libérées, on les envoie sur Theresienstadt, où là, elles seront libérées définitivement. Alors, pour les autres, que s'est-il passé? Pour les hommes, on peut penser que certains ont été gazés à l'arrivée parce qu'ils étaient assez âgés. Les autres, on ne peut pas savoir. On n'a aucune information sur les lieux où ont été dirigés les hommes. En revanche, nous savons, c'est là qu'on va retrouver Pauline Weiler, nous savons qu'elle était à Auschwitz. Alors, est-elle passée par d'autres lieux avant? On n'en sait rien. On peut parler du cas de Pauline Weiler, parce que c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Louise Houdin, qui cherchait ce qu'est devenue Pauline Weiler. Et moi-même, je ne savais pas grand-chose à l'époque. Enfin, on a quand même fini par trouver qu'elle a disparu. Elle était avec sa sœur à Auschwitz, elles sont passées par le camp des Tziganes. La sœur de Pauline a dû décéder apparemment vers le mois de décembre, janvier peut-être. On a un témoignage écrit d'une personne qui dit bien qu'elle les a connues, que la sœur de Pauline a dû être hospitalisée, aller au Revire. C'était une sorte d'infirmerie dans laquelle il n'était pas bon de séjourner. Hein. Pauline était donc à Auschwitz et quand le camp a été libéré le 27 janvier par les Russes, cette personne qui témoigne dit qu'elle était avec nous. Mais cette personne a décidé de partir pour Cracovie avec des compagnes. Apparemment, ça n'était pas le cas de Pauline. Pourquoi ne les a-t-elle pas suivies? On ne peut pas savoir. Mais elles sont quand même restées ensemble du 27 janvier jusqu'au 13 février. C'est le 13 février que cette dame, Madame Perle, est partie avec des compagnes pour Cracovie. Qu'a fait Pauline? Un témoignage oral, celui-là, prétend qu'elle se serait dirigée vers Odessa, ou des déportés regagnaient la France par voie maritime. Et qu'au moment de l'appel, Pauline n'aurait pas répondu. Et le trajet de Pauline s'arrête là, on ne sait pas. Alors, on aurait pu penser que peut-être elle était dans un état de très grande faiblesse et que les Russes l'auraient laissée avec les intransportables au camp. À la réflexion, ça me paraît peu probable parce que je pense que cette Madame Perle qui témoigne l'aurait précisé. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, on ne le saura probablement jamais. J'ai vu un documentaire il y a quelque temps qui était vraiment intéressant et j'ai beaucoup pensé à Pauline en le regardant. Des jeunes femmes françaises s'étaient chargées d'aller récupérer les déporter dans toute la zone russe. Les soldats les emmenaient avec eux. Alors, ils étaient, pour certains, accueillis dans des hôpitaux. Et apparemment, c'était une course contre la montre. Alors, est-ce qu'elle a été retenue dans un hôpital si elle était malade, si elle était forcément, parce qu'elle était plus très jeune quand même, est-ce qu'elle était dans un hôpital et que ces personnes n'ont pas pu la récupérer? On ne peut pas savoir. Alors, il faut tout de même dire que sur ces 20 personnes, il y a donc eu 3 évasions pendant le transport et 2 sont revenus de déportation. Je vous ai parlé beaucoup d'Hélène Greenstein parce que son témoignage a été très important. Une autre jeune femme qui avait une trentaine d'années, Louise Strauss. Elles ont suivi le même parcours, Auschwitz, Bergen-Belsen, Ragun, Theresienstadt. Voilà ce qu'on peut dire de cette rafle de Bourgueneuf le 21 juillet 1944.
Merci beaucoup, c'était passionnant.
Je voudrais savoir un peu comment se sont passés vos contacts avec les personnes dont vous avez pu recueillir les témoignages.
J'ai procédé avec beaucoup de prudence. Évidemment, une fois que j'ai dressé plus ou moins une liste, ou en tout cas, à partir du moment où j'ai eu des pistes, j'ai recherché les familles pour essayer d'en savoir un peu plus long. Et à ce moment-là, c'était le téléphone. Mais alors, très prudemment, je me présentais, je ne parlais pas de Shoah, je ne parlais pas de juifs dans un premier temps, je disais simplement que je faisais des recherches sur la Seconde Guerre mondiale dans la Creuse. Et puis, à partir du moment où je disais la Creuse-Bourgueneuf, je voyais bien s'il y avait une réaction ou pas. Et ça a été le cas d'ailleurs pour Paul Rosenbaum, parce que, alors que je le croyais mort, j'ai cherché sur les registres d'état civil et puis bon, finalement, on m'a dit « mais apparemment, personne que vous cherchez n'est pas mort ». Bon, j'avais quand même une zone géographique. Hein. Premier numéro de téléphone appelé, c'était le bon numéro. Et avec Paul, j'ai pratiqué comme avec les autres. Et là, il s'est exclamé, il m'a dit oh, « ben, si je connais Bourgueneuf, je pense bien ». Mais j'ai eu affaire un secret de famille. Et ça, je m'y attendais. Je me disais, ça va m'arriver un jour ou l'autre. Enfin, j'ai été aussi discrète que possible. Moi, j'ai donné les informations que j'avais et puis je me suis retirée sur la pointe des pieds.
Autre point ? Oui, vas-y, Michel.
Est-ce qu'on peut avoir plus de précisions sur à quel moment Pauline Weller a quitté Paris pour aller, si j'ai bien compris, à Bourgueneuf, à moins qu'elle soit passée par ailleurs avant ? Et puis, deuxième chose, est-ce qu'on peut penser qu'elle a eu une activité de résistance, ou elle, ou des membres de sa famille?
Alors, je crois que Pauline Weller est arrivée un peu après sa sœur et son beau-frère. Elle a dû arriver en 1941, je pense. Il y a eu une coupure, il m'a semblé que vous parliez d'activité de résistance, je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu.
Oui, c'est ça. Oui. C'est
rien ne me permet d'affirmer que oui ou non, mais ça m'étonnerait. En revanche, il y a plusieurs personnes, y compris dans les déportés, qui faisaient partie de la résistance. Il y a notamment le frère de Louise Strauss, lui n'a pas été déporté, mais lui, il s'est engagé très tôt. Et Louise Strauss, elle, tricotait pour le maquis. Le maquis lui avait fourni 50 kilos de laine et nous avons des hivers quand même un peu rigoureux dans la Creuse. Et si vous vous intéressez à l'histoire de ces Juifs dans la Creuse, il y a un historien creusois, parce que j'appartiens à une association de recherche sur la résistance et l'occupation dans la Creuse. Et un historien, Christophe Moreigne, a publié un livre qui s'intitule « La mention rouge » où il explique évidemment cette mention rouge, c'était ce mot juif appliqué sur les cartes d'identité. Et il fait notamment un portrait de la nièce de Pauline Weller, de Madeleine Franck, qui a eu un parcours tout à fait étonnant.
Et dont nous avons rencontré le fils et la petite-fille.
Terminé, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie pour ce bon moment passé en votre compagnie.